L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Ouadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger le docteur Mohamed Achir, économiste algérien, enseignant à l'université Mouloud Mamri à Tizi Ouzou en Algérie. Avec lui, nous allons parler du contexte géoéconomique et géostratégique mondial dans lequel se tiendra du 29 février au 2 mars à Alger le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Du 29 février au 2 mars 2024, se tiendra dans la capitale algérienne la 7e édition du sommet des chefs d'État du Forum des pays exportateurs de gaz. Cette organisation compte 13 pays permanents, dont les 5 principaux producteurs mondiaux, Russie, Iran, Qatar, Venezuela et Algérie, qui contrôlent 73% des réserves mondiales et 42% de la production, ainsi que 7 pays observateurs. Environ 45 à 50% de sa production sont exportés, notamment sous forme de GNL, à hauteur de 60% des exportations dans le monde. Actuellement, la part du gaz dans le mix énergétique mondial est de plus de 23%. Il est pratiquement certain, selon des spécialistes, qu'elle va se maintenir et continuer à croître à raison de 1% par an en moyenne au moins pour atteindre 26% à l'horizon de 2050. Dans le contexte de la reprise économique post-Covid-19, le marché mondial de l'énergie, dont notamment celui du gaz, ne cesse de connaître des turbulences de plus en plus handicapantes. Il faut tout d'abord rappeler la situation en Ukraine et ce qui en a découlé avec le sabotage des gazoducs Nord Stream ainsi que les développements dans le détroit de Bab el-Mandeb à cause de la guerre dans les territoires palestiniens. À cela, on ajoute les préoccupations en matière de sécurité et d'indépendance énergétique et de même que les stratégies de transition énergétique mises en œuvre par les pays importateurs d'hydrocarbures et plus particulièrement de gaz naturel. L'énergie est incontestablement à la base du développement économique dans la mesure où on constate même une parfaite corrélation entre la croissance économique et la consommation énergétique dans pratiquement tous les pays. Or, depuis quelques années, un ralentissement des investissements est constaté en matière de développement des réserves existantes et des capacités de production, situation aggravée par la mise en œuvre de politiques de transition énergétique au niveau de plusieurs régions du monde, dont l'Europe en particulier. Cela a entraîné la chute des consommations, sinon la part des énergies fossiles dans leur mix énergétique dans un contexte d'abandon de l'énergie nucléaire. Le meilleur exemple relatif au poids du gaz en matière de souveraineté et de transition énergétique en Europe est l'Allemagne. Dès le début des années 2000, elle a adopté une nouvelle politique de transition énergétique adossée au développement massif des énergies renouvelables vertes, au gaz provenant de Russie et la fermeture de son parc nucléaire. L'Allemagne prévoyait même de devenir un hub de distribution d'électricité et de gaz vers le reste de l'Europe. Dans le contexte de la situation en Ukraine et le sabotage de Nord Stream 1 et 2, non seulement il y a eu un déficit d'approvisionnement en électricité, mais aussi un retour brutal vers les énergies fossiles, y compris le charbon, entraînant une forte demande et une augmentation des prix des énergies fossiles, plus particulièrement celui du GNL provenant des États-Unis. Ainsi, quelles seront les recommandations de ce sommet d'Alger? Ce forum pourrait-il devenir un jour une organisation forte à l'instar de l'OPEP ou l'OPEP+? Vers quelle organisation du marché mondial du gaz dans le contexte géopolitique et géoéconomique mondial? Pour discuter de ces questions fondamentales, l'Afrique en marche reçoit depuis Alger le docteur Mohamed Achir, économiste, enseignant à l'université Mouloud Mamri à Tizi Ouzou, en Algérie. Mohamed Achir, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, tout le plaisir est pour nous. Alors, la première question, docteur Achir, quelques années avant le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, la quasi-majorité des experts prédisait un accroissement des échanges sur les marchés spot au détriment des contrats à moyen et long terme. C'était la libéralisation des échanges et de la commercialisation des hydrocarbures. Mais en fin de compte, c'est l'inverse qui s'est produit. Et en effet, les pays producteurs se sont trouvés dans l'obligation d'assurer plus d'investissements nécessaires au développement des gisements, mais aussi la mise sur pied de chaînes de production et de commercialisation du GNL qui nécessitent également des investissements importants. Et ça, dans le contexte actuel, c'est-à-dire après le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Alors, ma première question, et qui me semble importante, le retour aux contrats à long terme, comme c'est le cas pour ceux du GNL qui dépassent actuellement souvent les 20 ans, est-il nécessaire pour préserver les intérêts aussi bien des pays exportateurs que consommateurs? Et à votre avis, le sommet d'Alger pourrait-il aller dans ce sens?
Je pense que effectivement, il y a un enjeu capital par rapport au prix du gaz, que ce soit le gaz naturel ou le gaz naturel liquéfié, le GNL. Donc, depuis pratiquement la COVID-19, la pandémie de la COVID-19, c'est-à-dire à partir des ans 2020, suivi par la crise russo-ukrainienne. Donc, ça a donné quand même une nouvelle reconfiguration des chaînes de valeur mondiales sur le plan économique, mais aussi des nouvelles tensions énergétiques, surtout sur le gaz. On peut dire que le gaz a suscité un intérêt particulier depuis au moins ces trois dernières années. C'est vrai que le gaz était toujours principal et important dans l'économie mondiale, au même titre que le pétrole, mais depuis la COVID-19 et depuis la crise russo-ukrainienne, le gaz a suscité beaucoup d'intérêt, et surtout en Europe. L'Europe, vous l'avez bien dit dans votre introduction, avec le sabordage de gazoduc ou bien de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 de la Russie qui a alimenté l'Europe avec une capacité quand même très importante qui atteint des pics parfois de 190 à 200 milliards mètres cubes de gaz. Donc cela a fait développer donc ce contexte-là géopolitique, géoéconomique a fait développer quand même des nouvelles approches par rapport au prix du gaz ou bien des nouvelles tentatives d'indexation du prix du gaz à des marchés spot. Et ça justement donc on assiste aujourd'hui à cet enjeu et l'indexation au marché spot et l'indexation aussi des contrats gaziers à terme, de long terme, sur d'autres indicateurs comme le pétrole, par exemple, qui faisait partie des matières sur lesquelles étaient indexés avant les contrats gaziers à long terme, ainsi que l'inflation, etc. Donc l'enjeu, effectivement, vous l'avez bien souligné, est-ce que maintenant les pays producteurs et exportateurs du gaz vont se soumettre à cette nouvelle tendance de vente?
Ça serait aussi dans leur intérêt. Ça serait aussi de leur intérêt parce que justement les tensions géopolitiques donnent beaucoup plus la main aux fonds spéculateurs qui profitent de ça pour multiplier le prix du gaz par 3, par 4, parfois, et alors qu'il n'y a pas de justification en termes de prix de revient de l'extraction. et c'est-à-dire de du manque ou de la disponibilité du gaz. Mais c'est vrai que la coupure de Stream 1, Nord Stream 1, Nord Stream 2 a posé un problème, mais la multiplication par 4, parfois, du prix, c'est un peu abusé. Est-ce que ce n'est pas dans leur intérêt, justement, d'aller de revenir vers ce pour essayer au moins de diminuer la marge que les fonds spéculatifs s'arrogent dans ce contexte actuel?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Louad. Vous posez un problème d'économie, de l'économie mondiale carrément, hein, du système économique international, surtout des échanges internationaux, qui est marqué non seulement par la financiarisation des matières énergétiques, mais de toutes les de principales matières premières. Mm-hmm. Quand vous parlez justement des fonds spéculatifs, et quand vous parlez un peu de ces marchés spot, de ces gains à très court terme et de cette spéculation. Donc cela, ça ne touche pas seulement le gaz ou le pétrole, mais ça touche toutes les matières premières, qui sont des matières premières parfois vitales pour la vie de l'humanité, comme les produits alimentaires.
Absolument.
Donc il y a un problème de l'économie mondiale, c'est le problème de la financiarisation. Donc cela a créé même un décalage entre la sphère réelle, c'est la sphère de la production, et la sphère financière, c'est cette sphère justement spéculative, ces bulles financières, ces investisseurs institutionnels, les grands fonds de pension, les grands fonds spéculatifs, les fonds de placement, et ils sont devenus les maîtres de l'économie mondiale, et c'est tout qui dicte la croissance économique réellement, et c'est tout qui crée les crises, des ruptures, etc. Et cela est un véritable danger, non seulement pour la croissance économique mondiale, mais aussi pour la stabilité et la sécurité mondiale.
Absolument.
Donc, vous posez un problème, effectivement, qui est traité par qui est vu par l'angle du danger de la financiarisation des matières premières, c'est-à-dire cette tendance faisant que toutes les matières sont soumises au diktat des spéculateurs et des marchés financiers sur tout spot. Et maintenant, effectivement, les pays producteurs du gaz, surtout les exportateurs, effectivement, ils ne doivent pas se soumettre à ce dictat des marchés spot. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile de faire face, étant donné que le gaz est beaucoup plus, les prix du gaz sont plus dictés par les acheteurs, mais les pays exportateurs, s'ils arrivent à mieux s'organiser à son temps, d'ailleurs, le GSF qui se tiendra à Alger du 28 février au 2 mars est l'occasion et le cadre adéquat pour discuter de cet enjeu très important faisant que le gaz peut basculer progressivement vers le spot, et le spot est un marché spéculatif qui ne va pas arranger les pays gaziers, les pays exportateurs, surtout les pays dont le revenu de leurs recettes en devise et budgétaire est beaucoup plus basé sur l'exportation du gaz. Donc cela va affecter la stabilité des économies de ces pays-là exportateurs.
Alors, justement, j'aimerais vous poser, justement, par rapport à ce que vous venez de développer, la seconde question. On a constaté que l'Europe a pratiquement doublé ses importations de GNL en 2023. Et tout indique que le monde en consommera de plus en plus. Et au-delà de 2030, il y aura probablement de plus en plus de gaz importé sous forme de GNL. Or, c'est dans ce contexte, justement, c'est pour aller dans le même sens, que le président américain Joe Biden a pris la décision de suspendre temporairement tout nouvel accord de construction d'unités de liquéfaction et par conséquent d'exportation de nouveaux volumes de GNL au-delà de 2027 et 2030. Notamment, c'est au Texas, il y a de nouvelles installations pour la liquéfaction qui sont bloquées. Alors, dans ce cas, Docteur Achir, les pays européens et même asiatiques dépendants du GNL américain sont inquiets, je crois que c'est tout à fait normal, pour la période qui va au-delà de 2030. Selon l'Association asiatique du gaz naturel, toute réaction, je cite, toute réduction des futures exportations américaines de GNL aurait un impact négatif sur la sécurité énergétique en Asie, déjà, et sur la capacité des nations de notre région à réduire leur dépendance à l'égard des centrales au charbon et de passer au gaz. Et cette décision US comporte aussi la révision en cours des conditions des licences d'exportation de gaz vers les pays non signataires d'accords de libre-échange. Voilà. Habituellement, c'est ce que les Américains, c'est un domaine dans lequel les Américains, on peut dire, excellent, le chantage. Alors, comment analysez-vous cette situation, surtout que le prix du gaz sur le marché européen a connu une envolée du prix qui a atteint 340 euros le mégawatt-heure en août 2022.
Oui, je pense que les Américains font du gaz un levier de leur politique étrangère d'abord, de leur influence, mais aussi de un levier de développement de leur économie. Mmh. Le gaz... et le pétrole, le gaz, le pétrole et le dollar. Donc voilà un peu les leviers importants des États-Unis d'Amérique dans cet échiquier politique, géopolitique et gazier, ou bien énergétique mondial. Donc le gaz de schiste américain est arrivé maintenant en force sur le marché depuis des ans, la crise russo-ukrainienne, surtout en Europe.
Avec des capacités de liquéfaction très importantes, donc on peut dire que le gaz de schiste américain a trouvé même, c'est-à-dire il n'a pas eu de problème pour trouver des acheteurs, même avec un prix beaucoup plus cher que le prix du gaz russe qui a alimenté des pays européens, surtout l'Allemagne. Donc le gaz de schiste américain, il faut rappeler qu'il ne peut être rentable qu'avec un prix de vente d'environ $8 le million BTE. Mm-hmm. Le gaz de schiste américain maintenant, comme j'ai dit, il est en force en Europe parce que les Américains ont une grande capacité de liquéfaction déjà, ils ont une grande production de gaz de schiste et même ils ont des réserves très importantes, c'est-à-dire
elle est appelée à durer dans le temps. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi la décision d'arrêter la construction de certains...
Justement, cette décision peut-être de Biden d'arrêter des usines ou bien de geler les usines de liquéfaction peut-être répond d'abord à la nécessité de ne pas trop inonder le marché mondial parce que vous savez que quand le gaz américain exporté c'est le GNL c'est le gaz naturel liquéfié et le gaz naturel liquéfié est essentiellement aussi vendu sur les marchés de spot. Mmh. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui on est à 80% spot et on est à 20% marché spot en termes de vente du gaz et à 80% des contrats à terme. Mais il y a d'abord cette peur de renversement du marché. Donc si les entreprises américaines inondent le marché européen avec le marché spot, donc nous l'avons dit dans la première question, le marché spot est un marché volatile. Mm-hmm. Donc ça peut réaliser des pics de hausse et comme ça peut réaliser des bulles et des baisses considérables. Mm-hmm. Donc il y a peut-être c'est-à-dire ce scénario de gérer un peu les tendances des prix du gaz et la quantité de gaz à fournir, ça d'une part. Et il y a une autre hypothèse qui peut expliquer la décision de l'administration américaine par rapport au gel à partir de 2027 de ces de ces usines d'électrification, que peut-être les Américains veulent s'orienter davantage vers le développement de leur économie, la réindustrialisation de leur économie, parce qu'il faut savoir une chose, que depuis au moins une décennie, il y a un mouvement qui s'appelle le raccourcissement des chaînes de valeur mondiales, et même une certaine démondialisation. Donc il y a un mouvement consistant à relocaliser les entreprises non seulement américaines, même européennes, qui étaient installées en Asie.
Justement, c'est par rapport à ça que je voulais vous, justement, c'est à ça que je voulais en venir, parce que c'est alors que l'Europe est complètement étranglée justement par le manque d'énergie, oui, notamment le gaz, et le prix pour l'Europe est multiplié pratiquement par 4. Et dans ce contexte, il y a un mouvement de désindustrialisation qui s'accélère, notamment en Allemagne, où il y a énormément d'entreprises qui délocalisent vers les États-Unis. Alors on se demande est-ce que ce n'est pas un petit coup de pouce dans ce sens où les Américains veulent un peu étoffer leur industrie, leur production locale en pillant l'industrie européenne.
C'est à ça ce que c'est ce que je veux dire effectivement en expliquant un peu le contexte et en faisant un peu une rétrospective d'une nouvelle tendance de raccourcissement de chaînes de valeur ou de découplage dans les chaînes de valeur pour réindustrialiser les États-Unis d'Amérique et surtout avec le président Trump, donc il y a eu tout un des mesures carrément de démondialisation. Donc cela, les Américains veulent se réindustrialiser. Et maintenant, si les Américains inondent le marché gazier européen, si le prix de l'énergie, du gaz en Europe deviendra un prix à bon marché, donc cela permettra aux Européens de relancer leur industrie, surtout l'Allemagne, qui est actuellement en récession.
D'accord.
Par contre,
alors justement, dans ce cas, est-ce que les Européens n'ont pas intérêt à tendre la main, justement, aux pays qui vont se réunir à Alger entre le 29 février et le 2 mars pour essayer de trouver une solution à ce problème qui risque complètement de fusiller l'industrie européenne?
Bien sûr. Les Européens ont tout intérêt à travailler avec les pays de GESF, les pays, surtout les pays qui sont, c'est-à-dire géographiquement proches de l'Europe, comme l'Algérie, et même les pays africains, en termes de, c'est-à-dire d'approvisionnement du gaz et en termes mais de partage. C'est-à-dire de la chaîne de valeur avec une approche gagnant-gagnant.
D'accord. Donc,
parce que le gaz de schiste américain est très cher. Il est beaucoup plus cher que le gaz, d'abord c'est le GNL, avec sa logistique, son transport, sa liquéfaction, donc ça devient cher. Et puis c'est le schiste. Le schiste, je l'ai dit tout à l'heure, et il faut peut-être environ au moins $8 le million BTE pour le rentabiliser. Sinon, ça devient pas intéressant. D'accord? Donc, les Américains, ils sont pragmatiques. Ils veulent relancer l'industrie américaine, pas l'industrie de l'Europe. Et d'ailleurs, même depuis la crise russo-ukrainienne et depuis la crise énergétique en Europe, il y a beaucoup d'entreprises, surtout allemandes, qui se sont délocalisées en Amérique. Pourquoi?
Absolument,
parce que les Américains présentent un prix d'énergie très compétitif.
Bien.
Quand vous êtes en Amérique, vous payez le gaz à $3, $2, $3 le million BTE, mais quand vous êtes en Europe, vous le payez à $14.
Absolument.
Vous voyez un peu la différence?
Alors,
oui.
Alors, justement, pour passer à la question suivante, au premier trimestre 2023, l'approvisionnement de l'Europe en gaz par gazoduc s'est fait en grande partie depuis la Norvège, donc à 46,1%, qui a augmenté ses capacités de production et d'exportation, et le reste à partir d'autres fournisseurs, qui ont remplacé avec de légères augmentations le recul de la Russie à raison de moins 21%. Et puis, on a la différence des besoins a été importée en GNL en raison de 40,2% à partir des États-Unis et le reste des autres fournisseurs. On peut constater à ce niveau que trois membres, justement, du Forum des pays exportateurs de gaz ont contribué à raison de 33% à ces importations de GNL. Si l'on regarde bien. Alors, la mise en œuvre effective, justement, ma question, de la récente décision du président américain Biden de suspendre les accords pour de nouvelles unités de liquéfaction, dont le nombre en attente d'approbation est actuellement de 16, ne signifie-t-elle pas la mise à mort de l'économie européenne, d'un côté? Et puis, de l'autre côté, voyons que les membres du forum, quand même, ils ont quand même exporté à hauteur de 33% de GNL vers l'Europe. Est-ce que ne sont pas la bouée de sauvetage de l'économie européenne?
Oui, l'Europe a l'intérêt à diversifier ses fournisseurs. Et déjà avec son abordage de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, elle avait une ressource gazière à bon marché et abondante, disons, même à long terme, c'est-à-dire toute une sécurité d'approvisionnement. Et malheureusement, ils se sont piégés par un peu cette crise russo-ukrainienne et ils ne peuvent pas trop compter sur les Américains. D'une part, objectivement, d'abord, le gaz américain est trop cher. Mais aussi, les Américains ne vont pas permettre à leurs producteurs d'inonder, je l'ai dit, le marché gazier européen, surtout sur le spot. Et ça va casser les marchés, ça n'arrange pas le prix de revient du schiste américain. D'autre part aussi, il y a cette, l'Europe maintenant, il veut un peu développer les énergies renouvelables. Mais il faut savoir une chose, que ce n'est pas pour demain, les énergies renouvelables. Il faut des décennies, plusieurs décennies, pour pouvoir remplacer les énergies fossiles. Et ce n'est même pas pour 2050. Donc, il faut encore du temps pour les énergies renouvelables et pour la machine industrielle européenne et même pour les nouvelles technologies, hein, parce que quand on parle des data centers, etc., tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie.
Absolument, oui.
Pour le mix énergétique également, ils ont besoin de l'énergie fossile, ils ont besoin de gaz, ils ont besoin de pétrole. Et là, ils sont en train d'ailleurs de revenir même au charbon, au nucléaire. Donc ils ont compris que finalement, les énergies renouvelables, ce n'est pas pour demain. Et même le fournisseur américain, même si, c'est-à-dire il est là, c'est un allié géopolitique très important de l'Europe, mais les Américains sont pragmatiques sur le plan économique. Ils jouent leur intérêt.
D'accord. Alors, Mohamed Achir, pour une dernière question. Par rapport à ce que vous venez de développer avant, est-ce qu'une extension du conflit actuel au Moyen-Orient ne serait pas catastrophique du fait de l'importance de réserves de cette région-là, 40% des réserves mondiales en gaz et de sa production? Donc, le choc pourrait provenir ou ne proviendra pas du gaz seulement, mais aussi des approvisionnements en pétrole, car le Moyen-Orient aussi renferme 48% des réserves pétrolières. Alors, quelle est votre analyse et est-ce que les pays membres du Forum des pays exportateurs de gaz pourraient trouver une solution pour y faire face?
Justement, le GESF il doit discuter de ces questions de stabilité du marché gazier mondial. Parce que, d'abord, les pays du GESF n'ont aucun pouvoir séparément, c'est-à-dire des pays du GSF, c'est-à-dire les pays du GSF peuvent peser dans cet échiquier gazier mondial, c'est-à-dire en s'accordant sur plusieurs politiques, notamment la politique de stabilité des prix, la politique des approvisionnements et même, disons, la dépolitisation de la question énergétique mondiale. Parce que il y a une surpolitisation, il y a des enjeux derrière qui se cachent, qui ne sont pas objectifs, qui visent d'autres objectifs non déclarés. Donc les pays du GSF, et notamment l'occasion, ce forum à Alger, et c'est l'occasion justement de discuter un peu de la nécessité d'un pacte énergétique mondial qui va à la fois donc arranger les pays producteurs et qui va même, c'est-à-dire se situer, comme réponse un peu aux décisions, je dirais pas décisions douteuses, mais des décisions un peu en question de la dernière COP 28 sur le gaz. Donc ces pays du GSF, ils doivent quand même parler en une seule voix et dire, voilà, le gaz est une ressource énergétique indispensable pour l'économie mondiale, indispensable même pour l'humanité, parce que c'est une matière première pour l'agriculture. Donc, le gaz est nécessaire pour le mix énergétique. Le gaz est nécessaire pour la transition énergétique. Donc, le gaz ne doit pas être taxé, ni le mettre sous pression par ces COP, ces différentes COP, par aussi les décisions de l'Union européenne, etc. Et même les investissements dans l'exploration du gaz ne doivent pas s'arrêter et doivent être financés par les pays demandeurs, par les pays acheteurs.
Acheteurs, pas uniquement producteurs.
Bien sûr. Donc voilà un peu ce que le GSF, à mon avis, c'est un avis personnel, doit défendre lors de cette réunion.
Absolument. Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le docteur Mohamed Achir, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Spoutnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le docteur Mohamed Achir, économiste algérien, enseignant à l'université Mouloud Mamri à Tizi Ouzou, en Algérie. Mohamed Achir, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien.
C'est moi qui vous remercie.
Bien. Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde un aspect qu'on essaye un peu de déconnecter de la question de la maîtrise du marché des hydrocarbures, mais qui a une très grande influence et qui, à mon sens, je parle sous votre contrôle, a un lien étroit, rigide, sur la question du contrôle du marché de l'énergie en général. Bien. Alors, on a l'Union européenne dépendait déjà, en 2020, à 55% des importations d'énergie. Et l'Allemagne à 64%, dont celles provenant de Russie, à raison de 41% pour le gaz, 36,5% pour le pétrole et 19,3% pour le charbon. Et à titre d'exemple, il faut noter que la baisse des températures en janvier 2023 a amené l'Allemagne à faire face à un pic de consommation électrique sauvé par le charbon. Hein, je répète bien, par le charbon à 45%, le gaz à 20%, l'éolien à seulement 7% et le solaire à 0,5%. Et même le nucléaire à 3%, tout simplement parce que l'Allemagne a mené une politique depuis une dizaine d'années d'abandon du nucléaire. Alors, Mohamed Achir, comment réagissez-vous à ça, donc à ces données, au moment où personne, y compris les plus verts des verts, ne remet en question la remise en route en Allemagne des centrales à charbon? Alors que depuis des années, on nous a vendu cette question-là de décarbonation et ainsi de suite, et le remplacement du gaz par le gazole dans les usages industriels et domestiques.
Je peux emprunter un peu l'intitulé de l'un des très beaux ouvrages d'un prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz.
Oui, oui.
La grande désillusion.
Oui.
La grande désillusion.
Oui.
Qui est un livre qu'il a publié, si je me rappelle bien, en 2001 ou en 2002.
Oui, oui.
Donc voilà un peu, il y a cette, c'est-à-dire ce discours un peu politisé des énergies renouvelables et même cet activisme un peu, un activisme politisé. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'on est, c'est-à-dire il n'y a pas nécessité d'y aller vers des énergies renouvelables, au contraire, il y a nécessité d'y aller vers des énergies renouvelables, de faire un mix énergétique, de faire de l'économie d'énergie, de l'énergie propre, etc. Mais et ces visions-là ne doivent pas être teintées d'idéologie ou de visions géopolitiques derrière, et aussi même de mensonges.
Absolument.
On ne peut pas remplacer les énergies fossiles, du moins à moyen terme, à long terme, même à long terme, d'ici plusieurs décennies. Mm-hmm. On ne peut pas. Et d'ailleurs, voilà, l'exemple de l'Allemagne était différent. Voilà qu'on, avec la rupture d'une grande partie des approvisionnements en gaz, donc c'est le retour au charbon. Et en fin de compte, comme vous l'avez bien souligné, la partie des ENR dans
les énergies.
Oui, les énergies renouvelables.
Oui.
Donc, il est vraiment dérisoire.
Dérisoire,
comme l'éolien. Donc, c'est dérisoire. Et puis, il y a aussi la nécessité d'avoir, même pour développer des énergies renouvelables, il faut du gaz. Parce qu'il y a l'intermittence aussi qui est nécessaire.
Absolument.
Dans l'utilisation de ces énergies renouvelables. Bon, je ne rentre pas dans le domaine technique, je ne suis pas un spécialiste, je suis économiste et observateur un peu du marché gazier, du marché pétrolier, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes très loin de remplacer les énergies fossiles et il faut encore beaucoup de temps et il faut travailler la main dans la main entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles. C'est pour cette raison que j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faut pas qu'il y ait de pression sur les pays producteurs des énergies fossiles.
Mm-hmm.
Parce que le monde et les pays européens ont besoin des énergies fossiles. Mais pour leur transition énergétique, ils ont besoin d'énergie fossile, surtout du gaz.
Mm-hmm.
Et le gaz est d'ailleurs, si on va y aller dans c'est-à-dire si on peut déconstruire un peu ces discours des différentes COP qui s'organisent chaque année. Donc la COP de Glasgow a été affirmative par rapport à l'énergie gazière comme énergie, disons, relativement propre et qui est nécessaire pour la transition énergétique. Et maintenant, dans la COP 28, voilà, le gaz est pointé de droit comme, c'est-à-dire, qu'il doit cesser, les pays producteurs, le gaz dégage de CO2, etc. Donc, voyez un peu les discours ambivalents et les contradictions qu'on relève même dans les différentes COP, qu'on soit la COP 26.
Et nous sommes habitués en réalité à ce genre de discours.
Voilà,
vous avez raison le souligner, parce que en général, les recommandations qui sont faites par les COP ne sont pas contraignantes, mais c'est-à-dire on fait en sorte à ce que les Occidentaux font toujours en sorte de trouver le moyen de faire pression sur les pays du Sud, mais en fermant les yeux sur le fait que le premier pays qui ne respecte pas les recommandations, ce sont les États-Unis.
Oui. Et puis, vous parlez des pays du Sud, notamment des pays africains. Vous savez que il y a environ 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité.
Absolument, oui.
et plus de 900 millions d'Africains aussi qui n'ont pas accès facilement à l'énergie comme ça, pour cuire, etc. Donc, voyez un peu une réalité. Vous allez demander à ces pays africains de ne pas développer les énergies fossiles, de ne pas développer le gaz. Et vous allez leur demander d'aller directement dans les énergies renouvelables qui nécessitent des technologies très importantes, une maîtrise, etc.
Et puis, une bonne partie de l'inflation justement, est due de l'inflation qu'on voit en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, parce que ce sont les secteurs qui exportent beaucoup ou qui consomment beaucoup. Une bonne partie de l'inflation est due au prix exorbitant de la transition énergétique qui s'est diffusé dans toute l'économie.
Oui, bien sûr. Donc là, vous me tendez la perche pour parler aussi du gaz comme matière première aussi, indirecte pour la production agricole. Parce que c'est le gaz. C'est avec le gaz aussi qu'on produit une grande partie des engrais.
Oui, oui.
Ah, donc là, le gaz aussi, il est nécessaire pour la sécurité alimentaire. Mmh. Et puisque vous parlez de l'inflation, surtout des produits alimentaires, ils sont dus également au prix des produits phytosanitaires. Mmh. Et les produits phytosanitaires impactés, bien sûr, par les prix d'énergie. Donc il faut investir réellement dans le gaz pour rendre même les inputs après, rendre les produits pétrochimiques et les phytosanitaires moins chers, donc avoir un impact positif sur les prix des produits alimentaires, sur l'agriculture. Voyez un peu l'équation, complexe entre la question du gaz. Le gaz, surtout, ce n'est pas seulement une matière énergétique, mais c'est une matière première aussi, hein, qu'on utilise dans plusieurs branches. Hein. Vous voyez un peu. Donc, demander aux pays, à travers la COP 28, ou même la déclaration de l'AIE, l'Agence internationale d'énergie, et sur le gaz, il faut cesser les investissements dans le gaz, etc. Sinon, ça deviendra des actifs morts d'ici quelques années. Donc tout ça, c'est une pression malsaine réellement, parce que eux réellement ne croient pas eux-mêmes à ce qu'ils disent à leurs déclarations. Hein. Ils savent très bien que c'est des illusions. Hein.
D'accord. Alors, j'aimerais bien quand même vous poser une question sur le nucléaire, parce que avec cette question-là, on peut compléter le tableau et donner les éléments à nos auditeurs de bien analyser ce problème et de prendre un peu de recul à ce qui se dit dans les médias de grand chemin qui beaucoup font beaucoup plus dans l'idéologie et la propagande que dans l'approche économique stricto sensu. Alors, le nucléaire est l'énergie propre, par excellence, hein, qui peut sérieusement se substituer aux énergies fossiles. Or, surprise, le nucléaire est justement la première cible abattue par les mouvements politiques écologistes. Et dans ce cas, la France est le meilleur exemple. Hein. Le gouvernement Jospin, intégré par les Verts, a arrêté en 1997 le réacteur révolutionnaire Superphénix, un neutron rapide qui recycle les déchets nucléaires, crée son propre combustible et permet ce qu'on appelle dans le secteur la possibilité de fermer le cycle du combustible. Et puis, dernièrement, c'est le projet Astrid de même nature et abandonné, est envoyé aux oubliettes par le gouvernement français. C'était dernièrement juste sous Emmanuel Macron. Alors, Mohamed Achir, comment expliquez-vous cela alors que dans le contexte de la crise énergétique en Europe, provoquée par la destruction des Nord Stream 1 et 2 et les sanctions orientales, même les centrales à charbon sont réouvertes?
Eh bien, un pays comme la France, c'est le nucléaire qui a sauvé en quelque sorte le besoin de consommation énergétique français. Donc c'est grâce au nucléaire. Mmh. Et effectivement, le nucléaire a fait objet de beaucoup de campagnes, et surtout l'Allemagne, vous l'avez bien souligné. Et aujourd'hui, donc la France d'ailleurs a défendu le nucléaire au niveau de la COP. Nucléaire, maintenant, techniquement, je peux pas en parler sur le nucléaire, mais je pense que derrière un peu ces attaques des Verts contre le nucléaire, ça cache aussi des lobbies. Mmh. Hein, des lobbies aussi qui sont financés par d'autres producteurs d'énergie. Donc il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. Objectivement. Non,
c'est-à-dire que la question pour moi, qui me semble importante, parce que vous l'avez tout à l'heure souligné, vous avez dit que les pays africains, il y a 600 millions qui n'ont pas accès à l'électricité. 900 millions, rappelez-moi...
900 millions hein, qui n'ont pas accès facilement, c'est-à-dire... pour se chauffer hein,
oui,
facilement.
Il y a ça. Alors que c'est des pays qui disposent d'hydrocarbures. Un.
Oui.
Deux, il y a pas mal de pays africains. L'exemple de l'Égypte qui vient de lancer la construction avec la Russie d'une très grande centrale nucléaire qui va produire pratiquement 52% des besoins de l'Égypte en électricité. Et il y a d'autres pays africains, on peut citer le Burkina Faso et d'autres qui sont intéressés par la technologie russe pour aller dans le sens du nucléaire. Alors, justement, je voulais vous faire réagir par rapport à ça. D'un côté, on attaque les hydrocarbures, on veut empêcher les pays du Sud, notamment africains, c'est le continent qui nous intéresse dans notre émission, d'exploiter ces énergies, et en même temps, on attaque le nucléaire. Est-ce que c'est pas justement la voie vers le suicide de l'Afrique si jamais les dirigeants africains font l'erreur de tomber dans les escarcelles de cette idéologie verte?
Oui, surtout sur certains pays africains qui disposent surtout de l'uranium, matière première importante pour le nucléaire. Donc, ils ont tout intérêt d'avoir du nucléaire civil et de produire de l'électricité à partir du nucléaire. Et ça rentre aussi dans la diversification des sources énergétiques. Donc, je pense que ça ne doit pas y avoir de dogmatisme par rapport à cette diversification de sources énergétiques. Il faut y aller vers toutes les sources. Le nucléaire est une source quand même importante. En France, par exemple, les défenseurs de l'énergie nucléaire qualifient le nucléaire d'énergie propre. Oui, plus que les autres énergies.
Bien sûr.
Donc, pourquoi ne pas développer le nucléaire pour l'électricité en Afrique? Moi, je soutiens un peu cette option de développement du nucléaire, surtout dans les pays qui disposent d'uranium, qui disposent de la matière première, bien sûr. Donc, et d'autant plus que même les pays africains, il n'y a pas que le besoin d'électrification et d'alimentation de 600 millions d'Africains, mais il y a aussi le besoin d'industrialisation.
Absolument.
Il faut de l'électricité pour industrialiser l'Afrique. L'Afrique, on sait très bien que l'Afrique, surtout les pays du Sahel, par exemple, c'est les pays les plus pauvres au monde, hein, les pays du Sahel, donc ils ont besoin de l'électricité, ils ont besoin de l'industrie, ils ont besoin pour maintenir leur population, pour éviter toute cette l'immigration clandestine, pour éviter aussi tous ces fléaux qui sont au niveau du pays du Sahel, le terrorisme, etc. Donc il faut créer du développement. Et créer du développement dans ces pays-là nécessite de l'énergie. On ne peut pas avoir une économie sans l'énergie. D'ailleurs, la peur de l'Europe maintenant, c'est pourquoi cette peur, cette panique de l'Europe depuis la crise énergétique, c'est parce que si on n'a pas d'énergie, on peut basculer dans la récession. Vous voyez l'Allemagne. C'est à cause de l'énergie qu'ils sont aussi dans la récession. Voyez donc,
pas uniquement de la récession, mais même dans une politique accélérée de désindustrialisation complète. C'est-à-dire, si ça continue sur cette cadence, dans quelques années, l'Allemagne, c'est un peu...
Non, mais j'ai vu, je me rappelle bien que J'ai lu quelque part un article qui parle d'une usine de chimie, etc., des produits chimiques, qui faisait un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros et qui risque de fermer à cause de l'énergie. Vous voyez un peu, donc c'est très important, l'énergie. Donc l'Afrique a besoin des grands investissements dans l'énergie, que ce soit les énergies fossiles, donc le gaz, il doit, surtout l'Afrique de l'Ouest, maintenant le Sénégal, la Mauritanie, le Mozambique, l'Angola, c'est des pays potentiellement appelés à devenir quand même des producteurs de gaz. Donc des pays aussi qui disposent un peu de l'uranium, comme le Niger, etc. Donc ces pays-là, ils peuvent avoir des mix énergétiques, non seulement en termes de renouvelables, mais aussi d'exploiter l'électricité à partir du nucléaire, le gaz, etc. Et les énergies renouvelables, le solaire, parce que aussi ces pays-là disposent, ils sont ensoleillés, donc ils disposent aussi un potentiel énorme pour l'énergie solaire. Donc il ne faut pas qu'il y ait de dogmatisme, à mon sens, dans ces questions-là. Il faut qu'il y ait de pragmatisme. Il faut évaluer les choses sans arrière-idéologique, arrière-pensée idéologique.
Donc,
bien pression.
Donc Mohamed Achir, est-ce que les pays de justement de ce forum, le forum des pays exportateurs de gaz, ont-ils vraiment intérêt à souscrire aux politiques recommandées par les différentes COP, notamment 27 et 28?
Pas du tout. Au contraire, le GESF, les pays, ce forum des pays gaziers doivent quand même se constituer et doivent s'unir et pour défendre l'intérêt des pays producteurs, bien sûr dans un cadre de concertation même avec les pays acheteurs, les pays importateurs, et essayer de défendre, c'est-à-dire en commun la cause, leur cause, qui est la nécessité de continuer à investir dans le gaz, mais aussi la nécessité d'y aller vers un développement durable, vers des énergies renouvelables, etc., sans qu'il y ait de pression, ni de taxes, ni quoi que ce soit sur ces pays-là. Donc la COP, les différentes COP, on sait très bien comment qu'ils se préparent, donc leurs recommandations, l'ambivalence des recommandations, etc. Ils visent peut-être des choses qui ne sont pas déclarées, donc il y a des enjeux qui se cachent derrière aussi. Donc, mais les pays gaziers, sur notamment le forum des pays exportateurs du gaz, doivent justement discuter de ces questions et créer des cadres de concertation et de coordination surtout entre ces pays pour défendre leurs intérêts. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les pays du GESF séparément ne peuvent rien peser sur l'échiquier mondial, parce qu'il ne faut pas oublier aussi les États-Unis d'Amérique sont un grand pays gazier. Donc,
absolument.
Elles sont là aussi.
Dès la perche, pour vous poser une question un peu, disons, d'un ordre philosophique, ou beaucoup plus politique. N'est-ce pas le néolibéralisme qui a prévalu depuis des décennies, qui a poussé l'exploitation sauvage de la planète, qui est responsable justement, s'il y a un problème, ces problèmes il y a, c'est justement ce système économique qui a pillé la planète et poussé le profit financier au détriment de ce qu'on aurait pu sauvegarder de notre planète. Or, justement, les Verts, ceux-là, ils ne les remettent pas en cause. Ils vont en Afrique, ils veulent organiser des COP en Afrique pour expliquer aux Africains que, heureusement, que leur continent n'est pas développé parce que la faune est sauvegardée, et ainsi de suite. Qu'en pensez-vous?
Ah oui, on aime garder toujours l'Afrique comme une chasse gardée, mais aussi comme un zoo à visiter. Et oui, les Africains ne vont pas se développer, ne vont pas utiliser leur gaz, leurs ressources, leurs matières premières pour s'industrialiser et rester comme des parcs à visiter. Voilà. Alors que même les problèmes d'émission de CO2, c'est pas les Africains.
Justement.
C'est pas les Africains, oui.
justement. Et, oui. et puis l'abus, c'est-à-dire dans l'exploitation, l'exploitation de beaucoup de gisements de régions du monde, c'est elle a été justement poussée par la logique du profit immédiat du système.
Tout à fait. Le libéralisme, c'est le profit avant l'homme. On a parlé de l'Allemagne. On se rappelle des inondations de l'Allemagne. Et à cause de la surexploitation aussi du sol, qui devient une pâte qui ne peut même pas absorber de l'eau. Vous voyez un peu ce qu'on appelle l'agriculture intensive. Le méthane et cette agriculture intensive et cette production de la viande, etc. Parce qu'il y a ceux qui disent aussi, même la pollution, même le CO2, la pollution, le méthane, etc., c'est dû aussi à la surconsommation de la viande, etc. Donc il y a plusieurs problématiques, mais effectivement qui sont liées à la logique maximaliste du libéralisme. C'est la maximisation des profits et le profit avant l'homme. Et c'est cette logique qui est sur le plan fondamental et qui, sur le plan philosophique aussi, qui continue encore de détruire les écosystèmes et détruire les économies mondiales et de créer de l'instabilité. On voit les marchés financiers, les logiques spéculatives et court-termistes des marchés financiers. On a parlé dès le début de l'émission de la financiarisation des marchés de matières premières et la financiarisation carrément de toute l'économie mondiale. Mmh. Hein? Et ça provoque des dégâts et ça continue encore. Donc justement, le libéralisme, il est au centre de ces problèmes. Donc voilà, les questions fondamentales doivent se poser globalement et en profondeur et sur le plan philosophique par rapport à la logique néolibérale qui continue toujours à surexploitation, à surexploiter et les matières premières et l'homme, même l'exploitation de l'homme, et que continue dans des logiques de domination et de néocolonisation, c'est-à-dire même l'utilisation des guerres, et les guerres par procuration, la déstabilisation des pays, et qui attaquent à la souveraineté carrément des pays, tout ça. Donc c'est le problème réel et réellement de l'économie mondiale et de la stabilité mondiale.
D'accord. Alors une dernière question, Mohamed Achir. Que pensez-vous donc de ceux qui disent que les États doivent supprimer complètement le rôle des hydrocarbures dans le mix énergétique d'ici 2050? D'abord, techniquement et économiquement, est-ce que c'est atteignable, même si tout le monde s'y met? Et puis, d'un point de vue philosophique, est-ce que c'est moral de demander ce genre de choses aux pays, notamment du Sud, notamment africains? Et que pensez-vous de la main tendue, justement, de la Russie dans le développement des gisements gaziers en Afrique ou le développement de l'énergie nucléaire et aussi, probablement, les aides au développement de l'agriculture, notamment par la production ou l'exportation d'engrais?
Le monde aura toujours besoin des énergies fossiles, surtout du gaz. Le gaz, maintenant, pourquoi d'ailleurs on parle beaucoup de gaz maintenant? Parce que le gaz devient un enjeu aussi géopolitique et un enjeu géoéconomique mondial. Donc, le gaz, il est en amont du développement industriel des pays, en amont du développement même agricole des pays. Donc, demander à des pays de ne pas investir dans le gaz et de cesser tout investissement dans le gaz, par exemple, et de les menacer aussi par des prochaines taxes de l'environnement, des taxes carbone, avec des programmes de décarbonation pour créer encore des coûts importants. Donc tout ça, ça n'obéit pas réellement à des objectifs, c'est-à-dire de l'intérêt commun du monde. Hein, je parle, c'est-à-dire de la stabilité économique et de la stabilité de la croissance économique mondiale, etc. Ça obéit peut-être à des partis occultes qui ont des intérêts, mais qui s'inscrivent aussi dans une lutte géopolitique et géoéconomique mondiale.
D'accord. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Mohamed Achir, merci pour tous ces éclairages.
Je vous remercie.
J'espère vous retrouver dans les semaines à venir dans une autre mission pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était le docteur Mohamed Achir, économiste algérien, enseignant à l'université Mouloud Mamri à Tizi Ouzou, en Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique, en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.